France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Et ce matin, une émission consacrée à la chambre, comment faire de la chambre une pièce vraiment à soi. Comme l'écrit admirablement l'historienne Michel Perrault, bien des chemins mènent à la chambre, le repos, le sommeil, la naissance, le désir, l'amour, la méditation, la lecture, l'écriture, la quête de soi, Dieu, la réclusion, voulue ou subie, la maladie, la mort, de l'accouchement à l'agonie, elle est le théâtre de l'existence ou du moins ses coulisses. Nous verrons donc ce matin comment rendre ce lieu où l'on passe la moitié de sa vie le plus agréable possible, la chambre à la fois rempart et refuge dans une société de la transparence. La chambre reste le lieu où l'on peut enfin s'extraire du regard des autres. Mais vous le verrez, la chambre n'a pas toujours été le lieu de l'intime. Elle a été dans le passé un lieu où l'on recevait. Réflexion sur la chambre, mais nous resterons également les pieds sur terre en vous donnant de très bons conseils pour la décorer ou la rénover. Racontez-nous le rapport que vous entretenez avec votre chambre. N'hésitez pas non plus à poser vos questions déco et rénovation 01 45 24 7000 sans oublier l'appli Radio France. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien vous fasse, Ali Rebbi.
La chambre est un espace de l'intimité. La définition de la vie privée dans le littré, c'est... La vie privée est secrète et nul ne doit chercher à savoir ce qui se passe dans la maison d'un particulier. Mais il y a beaucoup d'espace dans une maison. Et il y a un espèce de tabernacle du privé qui, au fond, est le lieu de l'intime, c'est la chambre. Et la chambre est attractive. Elle est attractive parce qu'elle est secrète, elle est attractive parce que elle est sexuelle aussi. Le rôle du sexe, du sommeil, du sexe dans la chambre, c'est très important. Et en même temps, elle est très cachée. Donc, on sait peu de choses sur la chambre. On sait beaucoup plus de choses sur le salon, parce que dans le salon, il y a des réceptions. On sait beaucoup plus de choses sur la salle à manger, parce qu'il y a des déjeuners. Et cette chambre qu'on n'arrive pas à pénétrer, elle est présente partout. Vous ouvrez un roman, surtout à partir du 19e siècle, bien sûr, mais déjà un peu avant, et il y a un mot qui revient tout le temps, c'est « ma chambre ». « Je me retire dans ma chambre », disent les héroïnes de Jane Austen, par exemple. « Je ferme la porte de ma chambre ». On la trouve absolument tout le temps.
La grande historienne Michel Perrault, en 2018, sur France Culture. Bonjour Christine Massel.
Bonjour.
Vous êtes historienne de l'art, conseillère scientifique au Musée des Arts Décoratifs à Paris et la commissaire de l'exposition « L'intime de la chambre aux réseaux sociaux » qui s'y tient actuellement jusqu'au 30 mars 2025. En quelques mots, parce qu'on va y revenir largement dans cette émission, que raconte cette exposition « L'intime de la chambre aux réseaux sociaux » ?
Bah, elle raconte en fait l'évolution de cette notion d'intime qui est datée en fait. On a commencé à avoir une occurrence du terme intime surtout au XVIIIe siècle. C'est développé au XIXe parce qu'en fait la question de l'intime et de l'espace privé, de l'espace domestique qui était lié au féminin, c'est très bourgeois. C'est l'ascension de la classe bourgeoise au XIXe siècle. Et aujourd'hui l'intime s'est modifié considérablement dans les 20 dernières années, on va dire, avec la chambre connectée, les réseaux sociaux. Donc c'est un sujet passionnant pour montrer des œuvres d'art décoratif, de design et aussi d'art visuel.
Bonjour Claire Olanier.
Bonjour.
Vous êtes historienne de l'art, spécialiste de l'architecture et de la culture urbaine du XVIIIe siècle. Et vous aviez publié en 2021 chez Picard, « La chambre et l'intime », un livre qui avait reçu un prix en 2022.
Oui, effectivement, le prix étudiant du livre d'architecture décerné par l'Académie d'architecture.
La chambre et l'intime. Bonjour Gaëlle Cuisy et Karine Martin.
Bonjour Ali.
Duo inséparable, vous êtes architecte, mais également architecte d'intérieur et cofondatrice du cabinet G+K. Et j'aimais beaucoup vos interventions dans la maison France 5 il y a quelques années. Et vous nous donnerez tout à l'heure des conseils en matière de décoration et de rénovation de la chambre. Alors, les Grecs appelaient Camara, tous les espaces destinés au repos. La chambre, nous dit Laure Aubert, c'est de façon prosaïque la pièce où l'on couche. Et pour compléter cette définition, je reprends les mots de la grande historienne, donc Michel Perrault, qu'on a entendu au tout début. Bien des chemins mènent à la chambre, le repos, le sommeil, la naissance, le désir, l'amour, la méditation, la lecture, l'écriture, la quête de soi, Dieu, la réclusion, voulue ou subie, la maladie, la mort, de l'accouchement à l'agonie. Elle est le théâtre de l'existence, ou du moins ses coulisses, Claire Olanier.
Oui, en effet. Alors la chambre, ce qui est assez intéressant, c'est que la chambre à coucher apparaît sur les plans, donc d'un point de vue architectural, à la fin du XVIIe siècle, et elle apparaît de façon assez concomitante avec la notion d'intime, justement. Et ça ne va pas se faire, évidemment, d'un coup ou d'un seul. C'est une apparition assez timide qui va se faire par étapes et dont les définitions, dont celles que vous avez citées, rendent bien compte. Puisque au début du XVIIIe siècle, la chambre est encore un lieu dans lequel on reçoit. Là où, dans le courant du XIXe siècle, elle devient un lieu dans lequel on se retire.
Et oui, à l'aube du XVIIIe siècle, on associe la chambre et l'intime, mais c'était un lieu de représentation, vous l'avez dit, un lieu où l'on recevait, par exemple, la chambre du roi Louis XIV, et tout sauf intime. C'est le lieu où se déroulent les grands moments de la journée du roi.
En effet, alors il faut imaginer quand même que la société du XVIIIe siècle, et de la fin du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle, est une société extrêmement hiérarchisée. Les intérieurs, comme les extérieurs d'ailleurs, doivent témoigner du rang social du propriétaire. Et cela vaut évidemment pour le propriétaire, en l'occurrence, vous le mentionnez, pour le roi, c'est une évidence, mais cela vaut aussi, et c'est ça qui est intéressant, pour le visiteur. C'est-à-dire qu'en fonction du statut du visiteur, il ne pourra pas pénétrer de la même manière dans la demeure, en fait.
Plus le statut... Il y a une série de sas.
Exactement, ouais. Exactement. Il y a une forme comme ça de dialectique entre l'ouverture et la fermeture. Que décide-t-on de dévoiler, finalement, et qui aura accès à ce qu'on dévoile?
L'un des moments cruciaux de la vie du monarque, c'est donc le lever. Comme vous l'écrivez, c'est la pénétration du courtisan dans l'espace de l'intimité du monarque.
Exactement, voilà. Et en fonction du statut du courtisan et de son intérêt pour le roi lui-même, il va pouvoir pénétrer plusieurs pièces dans l'appartement jusqu'à arriver à l'antichambre de la chambre et à pouvoir pénétrer et assister au lever du roi.
Et il ressemble à quoi ce lever du roi qui est tout sauf intime?
Il ressemble à quoi? Alors oui, effectivement.
Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce lever et au coucher également?
Alors en fait, tout ça était très très clairement mis en scène.
Très codifié.
Exactement, très très codifié. Donc le roi était de toute façon réveillé avant l'entrée des courtisans. Il était un peu préparé. Il y avait ceux qui avaient le droit, donc les très très proches, la famille, à le voir se préparer. Et puis une fois qu'il était prêt, pouvaient entrer les courtisans pour le voir, sa perruque, se poudrer, etc. Donc à la table de toilette, être vêtu, donc voilà.
Et Christine Massel, à partir de quelle époque la chambre devient vraiment ce lieu à soi où l'on peut s'extraire du monde? C'est au milieu du 19e siècle que, par exemple, la chambre conjugale se généralise dans la classe moyenne?
Alors, elle va se généraliser, en fait, un peu plus tard, parce qu'on parle de classe favorisée dans un premier temps, puis ensuite de classe beaucoup plus ordinaire. Il se trouve que dans les campagnes, on a dormi dans une seule pièce jusqu'à l'après-guerre du XXe siècle. Donc, c'est très progressif. Mais ce qui est important, c'est de comprendre qu'au XIXe, avec le développement de la classe bourgeoise, en fait, l'architecture des appartements va changer et on va avoir cette distinction très claire qui correspond à la réorganisation de la vie entre femmes et hommes. Espace privé domestique dévolu à la femme et espace professionnel à l'extérieur du logement dévolu à l'homme. Donc c'est un phénomène qui va créer aussi le concept de chambre maritale qui est très bourgeois. La chambre maritale où en fait c'est la femme qui perd sa chambre, la femme qui dans l'aristocratie avait son espace propre va perdre cet espace qui va devenir le bureau de monsieur, etc.
Donc, tout à fait, oui, tout à fait, c'est ça. C'est vraiment un glissement qui s'opère père, en fait. La femme a sa chambre, puis son mari, son conjoint, va s'inviter dans cette chambre, et puis, au fur et à mesure de l'évolution de la vie de famille, en fait, eh bien, elle va s'apercevoir que sa chambre va rester, en fait, à disposition de son mari. Donc, elle va progressivement devenir conjugale, là où les enfants vont être mis, surtout au XIXe siècle, vont commencer à être placés dans des chambres à part, et le mari va conserver, lui, sa chambre, son bureau, pour quand même être tranquille, mais investir l'espace dévolu à sa femme, qui du coup va prendre cette tonalité conjugale de fait.
Et vous l'avez dit, Christine Massel, avant l'avènement de la chambre à coucher conjugale dans la bourgeoisie au milieu du 19e siècle, pendant des siècles, les classes populaires, les classes rurales, dorment dans une salle rudimentaire. Hein. Il s'agit d'une salle commune, intergénérationnelle, multifonctionnelle, comme le rappelle Michel Perrault. Un exemple, en 1870, en Touraine, 70% des logements ruraux ne comportent qu'une principale chambre à feu, où tous étaient rassemblés dans 30 à 40 mètres carrés.
Oui, exactement. Ouais, ouais. Oui. Et souvent, les lits étaient partagés également. Ouais.
Donc on est très loin de l'intimité de la chambre à soi que l'on dépeint dans votre exposition, Christine Massel.
Oui, en fait, la chambre à soi, c'est plutôt un lieu à soi, si on traduit exactement le célèbre livre de Virginia Woolf.
D'ailleurs, il y a une nouvelle traduction à la Pléiade. Voilà, à la Pléiade, et le titre, c'est « Une pièce à soi ».
Voilà. Et donc, cette pièce, c'est cet espace de liberté que, d'une certaine façon, les femmes ont perdu et vont reconquérir au XXe siècle.
Votre regard, Karine Martin, Gaëlle Cuisy, sur cette lente conquête de l'intimité à travers la chambre ?
Elle n'a rien d'étonnant, évidemment. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'espère qu'on a plus problème d'investissement des lieux. En tout cas, autour de nous, on a la chance de voir qu'il n'y a pas ce problème-là. Mais la chambre, aujourd'hui, est quand même un espace où, parfois, dans certaines familles, les enfants n'ont toujours pas le droit d'aller, ou d'autres, au contraire, les portes sont ouvertes et les gamins sautent sur le lit le matin. Enfin, ça, c'est très individuel.
On va y revenir au cours de l'émission. J'ai l'impression que, lorsqu'il y a une rénovation d'un appartement, d'une maison, la chambre, c'est un peu le lieu un peu délaissé, j'ai l'impression. C'est pas le lieu prioritaire de la rénovation, contrairement à la cuisine, au salon, à la salle à manger. Est-ce que je me trompe ou...
Alors, ça l'était jusqu'à très récemment. Moi, j'ai trouvé, Gaëlle, que là, depuis, on va dire 5-6 ans...
Depuis le confinement.
Oui, voilà, c'est ça. Parce que la cuisine, on y reçoit toujours. On en a parlé précédemment dans une autre émission. On aime bien un petit peu frimer avec sa cuisine, il faut le dire. Voilà. La chambre, pas tant que ça. Mais... il y a quand même des cas où on doit passer, les invités passent par la chambre pour se rendre, par exemple, dans une salle de bain où il y a les toilettes, parfois. Et là, tout est dit.
Gaëlle Cuisy.
Oui. Mais évidemment, parce que la chambre n'est pas un lieu de représentation, comme le disait Karine. La chambre, ça peut être plusieurs choses. Dans les lieux urbains à forte densité, comme à Paris par exemple, nous, il nous arrivait très très souvent d'être confrontés à cette situation un peu spéciale, mais qui n'est pas du tout rare, c'est qu'il n'y a pas de chambre pour tous les habitants d'un appartement. Alors, soit ce sont les parents qui dorment dans le salon, soit ce sont les enfants...
C'est plus fréquent qu'on ne le croit.
Oui, beaucoup plus fréquent. Non, et là, je ne parle pas de classes défavorisées. Je parle de gens qui travaillent et qui ont un niveau de salaire tout à fait correct, et ça arrive très souvent. Donc notre mission assez souvent, c'est de construire une chambre dans le salon, sans pour autant venir empiéter, alors qu'on peut pas repousser les murs sur la pièce, et essayer de conserver la fonction salon, salle à manger.
Et vous nous donnerez tout à l'heure quelques bons conseils pour concevoir, décorer, rénover la chambre de ces rêves.
France Inter.
Genre vraiment, je crois que j'ai jamais eu une chambre autant en bazar.
Rends bien vous face.
Regarde-moi ça. Non mais franchement, ça déborde.
La punition lui pend au nez.
Ali Rebéi.
Les pyjamas, ils sont là. Là, il y a des produits. Là, il y a des élastiques. Là, il y a des pinces. Franchement,
c'est une catastrophe.
Comment faire de sa chambre un lieu vraiment à soi ? C'est notre thème ce matin. Alors, Karine Martin, Gaëlle Cuisy, je rappelle que vous êtes architecte et architecte d'intérieur. Quand vous concevez, rénovez, décorez un appartement ou une maison, on l'a dit, hein, vos clients ne placent peut-être pas la chambre dans leur priorité, quoique ça a changé depuis le confinement, parce que c'est un lieu où beaucoup de gens pénètrent quand même, hein, quand il faut aller, vous l'avez dit tout à l'heure, aux toilettes. Donc, c'est quand même un lieu, il va falloir faire attention à la déco, à la manière de l'aménager. Tout de même, à grands traits, comment a évolué la chambre et son design au cours du dernier demi-siècle, Gaëlle Cuisy ?
On peut dire que la salle de bain s'est énormément ouverte sur la chambre. La salle de bain n'est plus forcément une pièce fermée. On peut voir des têtes de lit autour desquelles on peut tourner et derrière lesquelles on peut trouver justement la douche, la baignoire.
Il y a un demi-siècle, la chambre standard, elle ressemblait à quoi ?
Il y a un demi-siècle,
ouais, bon,
4 murs, 2,50 mètres sous plafond,
avec
un lit.
Des gros meubles, avec des...
Oui, c'est bah, on
c'est
achetait la chambre.
C'est, voilà, on achetait la chambre,
on achetait le salon.
Voilà, chez Butch, chez Conforama. Voilà.
Donc on achetait le lit avec les deux chevets, la commode au pied du lit, et puis la salle de bain n'était pas... On n'avait pas cette idée de chambre parentale. Donc la salle de bain était déconnectée de la chambre parentale, et elle était pour tout le monde s'il n'y en avait qu'une. Et même s'il y en avait deux, celle des parents n'était pas... accessible depuis la chambre.
Tiens, Jean-Laurent Casselli, justement, on a prononcé le mot chambre parentale. Suite parentale, on l'entend souvent dans les émissions de déco notamment. Ça vient d'où cette suite parentale
Ben, c'est vrai que les Français ont la religion du confort. On l'a dit, ça a été, on s'est approfondi depuis le Covid. Hein, et je parle sous l'autorité des spécialistes de décoration. J'ai l'impression que c'est vrai que le mot de suite parentale est arrivé dans les émissions, dans le débat depuis les années 2000-2010. Alors, je ne sais pas quelle est la cause et l'effet, si les émissions de décoration ont propulsé cette suite parentale ou si les gens ont voulu de plus en plus de confort. Mais c'est vrai que, de même que l'îlot central dans les cuisines, que la douche à l'italienne, la fameuse double vanne, que des salles de bain, l'impression que la suite parentale c'est la nouvelle case à cocher dans des logements.
Mais ça raconte quoi de parler de suite parentale ?
Bah, je pense qu'il y a une idée de confort, probablement d'opulence, de généraliser à des catégories supérieures, moyennes et populaires un confort bourgeois. Et je trouve qu'il y a un vrai paradoxe au moment où on l'a dit, les logements sont quand même de plus en plus petits.
Gaëlle Cuisy, on vous demande beaucoup de suite parentale.
Oui, ça c'est un mot qui m'agace un peu. Mais
moi
effectivement,
aussi.
Je le comprends quelque part. Ça veut
qu'est-ce
dire...
qui vous agace dans ce mot, tiens
Je ne sais pas, parce que c'est un terme générique que tout le monde emploie sans se poser la question.
C'est la grandiloquence peut-être du terme.
Oui,
pour
ça,
parler d'une chambre, on va utiliser ce terme un peu hyperbolique de suite parentale.
C'est très aristocratique finalement.
Claire
oui, c'est ça,
si je puis me permettre.
Exactement.
C'est très aristocratique parce que finalement, dans les distributions d'Ancien Régime, on avait la chambre qui était environnée de la garde-robe, le cabinet de toilette, le boudoir, etc. Quoi. Et c'était vraiment le petit cocon.
Oui, alors on peut appeler ça une suite parentale quand il y a toutes ces fonctions qui sont greffées à la chambre et ouvertes sur la chambre. Mais maintenant, on appelle une chambre une suite parentale. Donc ça n'a pas tellement de sens.
Karine Martin.
Moi, quand mes clients me parlent de suite parentale, s'il y a une suite, c'est qu'il y a une série. Enfin, on est au moins deux dans une suite. Donc il y a et chambre et salle de bain. Bien sûr, parfois, là, on a accès à une toute petite chambre, une petite douche toute cracra avec un rideau en plastique. Ça s'appelle une suite parentale quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que ça vient vraiment de l'hôtellerie, puisque maintenant, les gens veulent... Donc, on avait des suites dans les hôtels qui n'étaient pas des chambres, enfin, qui ne sont pas des chambres. Et ça vient aussi de la promotion privée, ou publique d'ailleurs, quand ils... Voilà, c'est beaucoup plus simple avec toutes les réglementations handicapées, etc. Souvent, d'adjoindre une salle de bain à la chambre, et du coup on écrit suite et les parents tout de suite ont un statut autre que les... Voilà.
Ce qui a changé quand même au cours de ces dernières années, Karine Martin, Gaëlle Cuisy, c'est que la chambre c'est pas simplement le lieu du sommeil, du repos, de l'amour, de la lecture, c'est aussi un lieu où l'on peut travailler. Avec le télétravail, il y a souvent des petits espaces bureaux dans les chambres.
Mais surtout quand on est deux à travailler à la maison. Maintenant, ça arrive très souvent, le télétravail à deux, et là, on se dérange énormément. Donc, je ne sais pas qui de l'homme et de la femme va le plus travailler dans la chambre. Je ne me pencherai pas là-dessus, je n'ai pas la réponse. Mais voilà, il y en a un dans le salon. Et un autre qui peut passer aussi ses coups de fil et travailler dans la chambre.
Christine Massel, historienne de l'art et commissaire de l'exposition « L'intime de la chambre aux réseaux sociaux ».
Béatrice Colomina, qui est une spécialiste de la question, écrivait déjà que le lit était devenu un lieu de vie à part entière, en fait. Maintenant, on a le lit connecté, donc on peut travailler, faire l'amour, manger, recevoir des colis, draguer sur des applis, etc. Enfin, c'est devenu... C'est plus tant la chambre maintenant que le lit. Et c'est devenu le nouveau canapé, en fait, on va dire, d'une certaine manière. Et finalement, c'est moins la taille de la chambre qui compte que d'avoir un lit assez vaste où, comme faisait Hugh Hefner, poser tout ce dont il avait besoin pour travailler. Et vivre au lit, en fait, ça date déjà depuis longtemps chez les écrivains. On a eu Proust, on a eu Colette, on a eu des artistes, Matisse, Dali, Frida Kahlo. Et je pense que ce repli sur l'intime aujourd'hui, qui est lié quand même à un climat un peu anxiogène, favorise cette vie au lit. Et donc la chambre est devenue un peu un espace central, beaucoup plus que le salon.
Et vous avez raison, la chambre, c'est le haut lieu propice à l'introspection, à la méditation. C'est un lieu où l'on doit se sentir en sécurité. Je cite Christine, 60 ans, interrogée récemment dans Version Fémina. « J'ai vraiment besoin de cette bulle sans bruit, de m'y retrouver seule pour lire, regarder des séries. Je m'y sens protégée la nuit. Je suis autour de mon petit musée personnel que je décore avec soin. » Vos clients vous racontent ça quand ils ont envie de changer de chambre, de changer la déco de leur chambre, Karine Martin.
Oui.
Cet aspect sécurisant de la chambre.
Alors, l'aspect sécurisant et l'envie de tout changer, sans vraiment tout changer, parce qu'on casse pas les murs, etc., mais de redécorer autrement, de se reprendre en main. On a l'impression que leur chambre, quand ils veulent faire ça, c'est vraiment quand on refait un appartement dans lequel ils habitent depuis longtemps. C'est une reprise en main de leur vie, peut-être une deuxième chambre de chance dans le couple, j'en sais rien, mais voilà, quand il y a des enfants, des ados, on s'est bien occupé de la chambre des petits, etc., et la leur, ils ont envie de la reprendre en main, de donner un coup de frais.
Non. Après, je voulais dire que la chambre, c'est vraiment un espace aux multiples facettes. On peut dire que la chambre, c'est un espace du souvenir. Si on fait une typologie de toutes les chambres dans lesquelles on a dormi au cours de sa vie, que ça soit ses chambres d'enfants, d'ados, les chambres d'amis, les chambres d'hôtel, les couchages d'appoint. Si on y réfléchit, si on a tous un peu de mémoire, en fait, on se souvient très certainement à peu près toutes les chambres dans lesquelles on a dormi, et c'est pas forcément la même chose pour le salon. Par exemple, si on est allé chez une grande tante il y a longtemps, on va se souvenir de la chambre dans laquelle on a dormi, mais pas forcément de la maison. Et en fait, Georges Perec disait dans Espèce d'espace, l'espace ressuscité de la chambre suffit à ranimer, à ramener les souvenirs les plus fugaces, les plus anodins, comme les plus essentiels. Et c'est sans doute parce que l'espace de la chambre fonctionne chez moi comme une madeleine proustienne. Et voilà, en fait, c'est parce que c'est un lieu de repos, c'est un lieu où on est en pause et on peut se recueillir. Et c'est pour ça que les souvenirs sont très, très flagrants.
J'imagine que ça vous parle, ça parle à l'historienne de l'art que vous êtes, Claire Olénier.
Oui. Non, mais c'est vrai.
En fait, Georges Perec disait aussi une chose très intéressante. Il disait « J'aime mon lit, j'y passe un tiers de ma vie et surtout c'est le seul mobilier que l'huissier ne peut pas saisir. »
N'oublions pas que Perec a écrit Un homme qui dort.
Il a donné un film magnifique qui est dans l'exposition L'intime au Musée des Arts Décoratifs.
Livre magnifique. Alors j'aimerais qu'on s'arrête sur la conception, la rénovation, la décoration d'une chambre. Le principe de base, c'est peut-être de laisser respirer la chambre en laissant un axe de circulation le plus dégagé possible, même quand la chambre est petite, et peut-être surtout quand la chambre est petite, Karine Martin.
Mais c'est surtout de trouver des solutions de rangement qui ne se voient pas, parce que tout le monde n'a pas un dressing. Donc souvent, les armoires et autres commodes sont dans la chambre. Donc faire en sorte qu'elles soient le plus intégrées possible et qu'il n'y ait pas le bins de tout, chaussons, chaussettes, enfin tout ce qui traîne dans une chambre et qui pollue la tête. Donc c'est surtout ça, réussir à masquer toute la difficulté. De faire un peu comme les Beatles, hop, je prends ma guitare, c'est tout simple, voilà, j'ai bossé 12 heures par jour avant. Et bien là, pareil, et puis surtout, après, écouter ses clients, voir comment ils vivent, est-ce qu'ils travaillent ou pas dans la chambre, est-ce que c'est fermé à clé ou pas. Moi, j'ai une nouvelle tendance, là, depuis 5-6 clients, ce que je te disais tout à l'heure, maintenant, ils veulent tous refermer les chambres à clé, ce qui n'était pas du tout... Non, mais ce n'était pas le cas avant, donc peut-être après avoir vu l'expo, ils ont envie de... C'est ça, donc je pose pas de questions, je mets une serrure, bon, ça va. Voilà.
Une chose fondamentale à décider, c'est l'emplacement du lit. Est-ce qu'il y a un emplacement idéal du lit dans une chambre? Est-ce qu'il y a des principes directeurs, Gaëlle Cuisy?
Déjà, c'est l'emplacement des fenêtres. Enfin, voilà, on peut penser à l'orientation solaire, mais après, on n'a pas toujours le choix. Donc, on va pas mettre une tête de lit appuyée contre une fenêtre. Ça n'a pas de sens.
Je l'ai vu parfois.
Oui, mais bah, ça, c'est quand on n'a pas le choix, en général. On n'est pas tellement dans les règles, on est dans le bon sens.
Bien sûr. Voilà. Alors, si on a la chance de pouvoir le faire, séparer l'espace rangement de l'espace nuit. Et on l'a dit, de plus en plus de Français sont friands de dressing. Dans des magasins comme Ikea, Leroy Merlin, Castorama, les rayons dressing connaissent un très très grand succès, hein, Karine Martin.
Oui, absolument. Et avoir son dressing, c'est avoir une certaine... vis-à-vis de ses copines ou de ses copains, dire voilà, moi j'ai un grand dressing, ça marque un peu la chose, mais c'est surtout qu'on aime bien nous les faire, par exemple construire une tête de lit, ce que disait Gaëlle tout à l'heure, qui peut dévoiler la salle de bain de chaque côté, on aime bien aussi faire ça avec le dressing. Après il faut voir aussi en fonction des horaires, quand l'un va dans le dressing, si l'autre dort encore, enfin c'est toujours une question de au cas par cas.
Vous comprenez que certaines personnes n'investissent pas dans cette pièce, que l'on ne soit pas attaché à sa chambre, Karine Martin
Oui, il y a des gens qui se lèvent et qui ont besoin de sortir immédiatement de leur sommeil, une douche, un café, ils sont partis. Et puis d'autres qui ont besoin de réflexion. Quand un ado s'engueule avec ses parents, il va claquer la porte de sa chambre et s'enfermer dedans. Donc chacun fait ce qu'il veut dans sa chambre. Mais c'est vrai que oui, je trouve ça un peu triste de dire « Oh, moi, une chambre, c'est un lit, une table de chevet, et puis voilà. »
Tiens, Thomas nous dit quand je me faisais harceler au collège, le soir en rentrant, je me réfugiais et m'enfermais dans ma chambre à lire ou à jouer. Je pense que c'est un réflexe inné pour beaucoup de personnes. Dans le même cas, on est seul, tranquille, personne pour vous juger, Christine Massel, en lien avec votre exposition sur ce besoin voilà, de cocon protecteur.
C'est le besoin du nid, en fait, qui est très primitif. Et donc,
de la cabane.
Gaston Bachelard parlait dans les années 50 à La poétique de l'espace, c'est un livre magnifique qui vraiment rend compte de ce besoin tripal de l'humain, d'être entouré d'une pellicule. Et dans l'exposition, je montre aussi ce qu'est l'intime précaire quand on n'a pas de chambre, ce qui arrive malheureusement assez souvent. Et qu'est-ce qui se passe en fait l'humain a besoin de se recouvrir d'une couverture, d'une protection qui reproduit la grotte, la cabane, le nid protecteur.
Il y a effectivement un besoin de mettre à distance le reste du monde. Et je pense que c'est justement dans cette distance-là que l'intime émerge, en fait. C'est son seul moyen d'émerger. C'est dans la mise à distance du reste du monde. Ce qui pose du coup des questions avec l'apparition des réseaux sociaux qui rentrent dans la chambre. Et ce qui est assez frappant, c'est que là où les salonnières faisaient rentrer leur monde chambre, on se retrouve maintenant à mettre le monde à distance, mais à le convoquer à volonté via son téléphone.
C'est assez, les salonnières du XVIIIe siècle, à l'image de Madame du Deffand, par exemple.
Exactement.
Mais en fait, ce qui est important aussi, c'est pas simplement l'enveloppe de la chambre, c'est les objets. Et c'était important justement pour un musée des arts décoratifs de rendre compte de ça, parce que en fait, c'est les objets aussi qui définissent le niveau d'intime. Quand on n'a pas d'objets, quand on n'a pas de téléphone, quand on n'a pas toutes ces choses qu'on met autour de soi et qu'on emporte, par exemple, quand on va à l'hôpital pour reconstituer en fait un espace intime, on est dénué de son identité. Le cocon, la chambre, plus les objets, ça crée l'intime et l'identité.
Alors on a parlé de dressing, mais tout le monde n'a pas les moyens d'avoir un dressing. Il y a beaucoup de gens, on l'a dit, qui vivent dans un studio, qui vivent dans le salon parce que les enfants occupent la chambre. Est-ce que vous avez des conseils pour constituer un espace nuit dans des tout petits espaces, Gaëlle Cuisy? Qu'est-ce que vous conseillez? Quels sont vos conseils de base?
Alors, quand par exemple il faut faire une chambre dans un salon, ce que je commence à évoquer tout à l'heure, il y a plusieurs solutions. Soit on construit une cabine, faute de place, parce qu'on ne peut pas faire véritablement une chambre, une cabine qui va être éclairée soit en jour principal s'il y a une fenêtre, soit en second jour. Donc c'est la chambre minimale, c'est la cabane qui enveloppe. Mais par contre, il ne s'agit pas, quand on est architecte, de construire des cloisons avec une porte, ça n'a aucun sens. On travaille des cloisons épaisses, multifonctionnelles, qui vont aussi servir au salon et à la salle à manger. Donc on va trouver dans le verso de la peau une bibliothèque, un meuble télé, une banquette qui vont agrémenter le salon, qui fait que tout est intégré et qui fait qu'au final, alors qu'on a empiété sur l'espace, le salon a plus d'allure finalement souvent que ce qui n'était auparavant, alors qu'il était plus grand. Donc ça c'est la configuration de la chambre dans le salon. Mais il y a des gens qui n'aiment pas être enfermés dans une, voilà, dans une cabine, ça peut être assez gênant. Alors dans ce cas-là, on va l'ouvrir, mais on la surélève. On dissocie l'espace du couchage du sol pour pouvoir avoir son espace intime. Et on va travailler sur une sorte de paroi poreuse qui laisse passer, qui laisse ventiler, mais qui va occulter un petit peu la vue. Ça peut être des beaux rideaux ou un filtre, voilà. Donc il y a ces deux possibilités. Possibilité pour faire une chambre dans un petit espace.
Karine Martin.
Et si on veut aller plus loin, on a une studette, un tout petit studio, on ne peut même pas mettre autour du lit des rideaux ou autre. Donc juste en changeant de sol, hein, on se fait une petite estrade, etc. Et puis aussi avec des marquages de peinture
c'est une bonne idée,
qui
ça.
Vont de la tête de lit, qui finissent en la bande au-dessus du lit au plafond et qui redescend. Là, on a marqué l'espace
c'est
sans fermer.
C'est simple, pas cher.
C'est simple, pas cher et ça marche.
Alors, quels sont vos conseils pour les couleurs? Les couleurs idéales sur les murs d'une chambre, est-ce que le blanc, c'est forcément une bonne idée?
Tout dépend. C'est toujours très contextuel, l'architecture. C'est un peu clinique. Moi, j'ai une passion pour tout ce qui est papier peint, chinoiserie, rouge, sombre, etc. Ça pourrait en dégoûter plus d'un. Donc voilà, c'est selon, on écoute. Après, nous, ce qu'on essaye de dire à nos clients avec elle, c'est de pas prendre des couleurs franches, toujours prendre
trop
des couleurs rabattues. Qu'on aime le rouge, le vert, le orange, c'est pas grave. Rabattu, c'est-à-dire qu'on va injecter du gris dedans pour la descendre, un petit peu la désaturer. Par exemple, on prend le orange d'une marque très connue qui commence par un H. Il est travaillé, c'est pas un orange vif. On va prendre un vert, mais on va aller mettre un peu de gris pour le tourner vers le kaki, vers le vert amande. C'est des couleurs qui sont retrouvables dans la nature et qui frappent beaucoup moins les yeux que les couleurs vives qu'on a pu mettre dans les années 70 ou 60 même.
Jean-Laurent Casselli.
On est sorti enfin du bleu sombre et du vert forêt du Covid. À l'époque, on avait l'impression que les télétravailleurs voulaient ces couleurs un petit peu denses, très naturelles, qui agrandissaient un petit peu l'espace ressenti de la chambre.
Ah, mais on est sorti. Enfin, il faut vous en sortez quand vous voulez. C'est comme regarder un truc chiant à la télé. Vous avez le droit d'éteindre. Et si vous n'aimez pas le bleu et le vert, mettez du rose.
Tiens, une petite question personnelle. À quoi ressemblent vos chambres respectives sans trop entrer dans votre intimité? Quel type de chambre préférez-vous? Tout à l'heure, notre ami Nicolas Demorand nous disait hors antenne que sa chambre était plutôt monacale,
épurée.
Et il a précisé hors antenne qu'elle était plutôt monacale. Mais vous, elle ressemble à quoi? Sans entrer trop dans les détails, Karine Martin.
Alors moi, j'ai la chance de pouvoir dormir en bas l'été, quand il fait très chaud, et en haut, l'hiver, quand il fait plutôt frais. Donc ça, c'est déjà un très grand luxe et j'en suis très consciente et j'embrasse la porte de ma chambre tous les jours. Mais ce que j'aime dans celle où je dors en ce moment, c'est-à-dire sous les toits, c'est qu'elle est sous les toits et qu'il y a des rampants et que voilà, ce dont on parlait tout à l'heure, quand je suis dans la chambre du haut, je suis sous les toits et je me sens comme une gamine à qui on a fait un lit cabane. Je suis dans ma cabane et j'adore ça.
Claire Olagnier.
Moi, ma chambre est une chambre conjugale, déjà.
Déjà.
Et je dirais même, c'est une suite parentale. Attention les gros mots. Et en plus, elle a un mur bleu très très foncé. Donc là, je pense que je suis dans tous les clichés, c'est une catastrophe.
Vous cochez toutes les cases, Père
Olivier. Là, c'est, voilà.
Christine Massel.
Ma chambre, c'est un lit qui est entouré de livres que j'essaye,
bienvenue au club.
Voilà, que j'essaye de ranger régulièrement, qui est un nid à poussière terrible. Mais en fait, à chaque fois, je décide de clarifier la situation et ça recommence éternellement.
Jean-Laurent Casselli.
La mienne, elle est trop petite, bordélique et elle a quand même un escalier en mousse pour le chien. Voilà, je vais le préciser.
C'est pas mal. La gueule cuisine.
Alors, moi, il y a le contraste entre un sol en vieille tomette très, très, très abîmée et des grands tapis. Et puis, j'ai travaillé justement la tête de lit. J'ai fait un marquage de peinture tout en arc de cercle. Voilà, en tête de lit avec des suspensions de part et d'autre.
Vous me faites une belle transition parce qu'on abordera tout à l'heure une question fondamentale. Hein. Tête de lit ou pas tête de lit, on abordera cette question juste après la chronique de Jean-Laurent Casselli, les Français, mode d'emploi.
Regardez Salomon, regarde.
Grand bien vous fasse.
C'est net, c'est silencieux, y a pas de fumée. C'est en français.
Ali Rebéi.
Tu peux pas faire la queue comme tout le monde. Abruti, crétin, cocu.
Sur France Inter.
C'est ça les Français.
Jean-Laurent Casselli, vous êtes allé au Salon de l'Agriculture.
Oui, imaginez un peu, Ali, quelqu'un qui, dans ce pays, serait apprécié de 91% de nos concitoyens. Hein. Quelqu'un qu'on qualifierait tout à la fois de courageux, d'utile, de passionné, de sympa, de proche des gens. C'est un peu votre portrait, hein, Ali.
Bien sûr.
Sauf qu'il s'agit des résultats d'un sondage Odoxa pour le Figaro, qui portait donc sur l'image des agriculteurs français. Des agriculteurs qui bénéficient d'un immense capital sympathie. Cette année encore, ils vont voir 600 000 curieux leur rendre visite lors de cette immense foire agricole. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on fait réellement au Salon international de l'agriculture, le SIA, bien, il y a quelques figures imposées. Hein. On caresse les vaches, on regarde passer les ministres et pas l'inverse. On mange, on déguste également, puisque sur les 7 immenses halls du Salon, 3 d'entre eux sont entièrement consacrés aux produits de terroir. Hein. Donc c'est comme un très grand marché de producteurs organisé par région, département et territoire. Je suis ainsi passé devant un bar à escargot de Bourgogne, évidemment, un bar à Flamencuche, une cantine haute alpine avec fromage fondu sur place, un stand d'aligots de l'Aveyron, un autre de glace à la fourme de Montbrison, c'est dans la Loire.
Je vous laisse les escargots, hein, moi je prends l'aligot.
Ah bah ok, bah volontiers. Je note qu'au passage, la glace artisanale et fermière, notamment au fromage, c'est une des grandes tendances du moment. Et puis, à mon étonnement, il y avait aussi beaucoup de burgers proposés à la carte. Des burgers au fromage AOP du Cantal, des burgers au poulet fermier, des burgers paysans, même un kebab à la raclette ou du pop-corn de la Creuse. Autant de signes que le processus d'hybridation est en cours, hein, entre d'une part nos traditions, nos terroirs, et puis les codes de la globalisation culinaire. Et enfin, j'ai croisé des dizaines de stands de micro brasseurs, pas étonnant puisqu'ils sont plus de 2500 sur le territoire. De quoi donc être totalement ivre dès 11h du matin.
Bref, Jean-Laurent Casselli, vous avez vécu un moment assez magique. Hein.
Et oui, parce que attiré par une bonne odeur de fromage, ceux des 10h du matin, je me suis retrouvé lundi dans le hall qui accueillait la finale du concours général agricole catégorie produits laitiers.
Quelle chance.
Et voilà, autant vous dire, Ali, que j'ai vécu un rêve éveillé puisque je me suis retrouvé sur le plus grand plateau de fromage de France et donc du monde. Il faut imaginer ce que c'est, un des rangées de tables à perte de vue, sur chaque table des fromages, tomes de vache ou de brebis, camembert, fromage à raclette, emmental, comté, roquefort, je ne vais pas tous les faire. Et puis autour des tables, il y a des jurés pour départager tous ces fromages. Alors à cet instant, la question que vous vous posez tous, c'est comment je fais pour devenir moi aussi juré du concours général agricole, ce qui consiste donc à goûter des fromages. Alors figurez-vous qu'en fait, bah, il suffit de postuler tout simplement, c'est comme sur Parcoursup, on formule une liste de vœux et puis on espère que l'algorithme va nous attribuer la bonne place. La plupart des candidats avec lesquels j'ai échangé avaient obtenu la catégorie de fromage demandée. Par exemple, ceux qui étaient à la table des raclettes, ben, ils vivaient un peu leur meilleure vie. Mais il y a quand même des exceptions. J'ai croisé un monsieur qui avait été assigné au tome de vache alors qu'il avait demandé les fromages bleus. Hein. Il était un peu déçu. Et puis, on m'a fait comprendre qu'il était temps de partir pour laisser les jurés dans le secret des délibérations. Il ne s'agirait pas de les influencer. Hein. Sinon, les attachés de presse du salon vous plaquent au sol immédiatement. Non, je plaisante, elles ont été très sympas. Et puis voilà, avec ces petits instantanés du salon, j'avais surtout envie de raconter les coulisses à un moment où le monde agricole souffre énormément. J'ai donc évité tous les sujets qui fâchent. Hein. La religion des prix bas de la grande distribution, très présente sur le salon. La question des rendements, des pesticides, celle du bien-être animal, ou encore la présence et le rôle remarqué de Karine Lemarchand, devenue la véritable porte-parole du monde agricole. Bref, autant de prochains sujets de chronique à venir.
Je vous fais confiance, Jean-Laurent Casselli. Merci beaucoup. On vous retrouve, on peut retrouver vos études sur votre site Maison Casselli, on peut vous lire également dans La France sous nos yeux avec Jérôme Fourquet.
France Inter.
Je crois même qu'il y a une belle journée qui se prépare.
Ali Rebéi.
Ah bon ? Eh bien, grand bien lui fasse.
Grand bien vous fasse.
Comment faire de sa chambre un lieu vraiment à soi ? C'est notre thème ce matin, l'occasion de l'exposition L'intime de la chambre aux réseaux sociaux au Musée des Arts Décoratifs à Paris jusqu'au 30 mars. Karine Martin-Galcuisi, je rappelle que vous êtes architecte et architecte d'intérieur. J'aimerais qu'on aborde la question fondamentale, tête de lit ou pas tête de lit. Quelle est l'utilité de la tête de lit d'abord ? Oui, c'est ça, matérialiser, donner une identité à l'espace nuit.
Alors, si elle est fine, si elle est juste un petit panneau de bois, par exemple, et qu'elle n'a pas d'autre fonction, oui, ça veut dire là, on met la tête et pas les pieds, par exemple. Après, si elle est plus épaisse et qu'elle, qu'elle accueille des objets, des niches, des prises, de la lumière, etc., là, elle a une vraie fonction.
Plusieurs genres de têtes de lit. Il y a les têtes de lit en peinture, peintes, en papier peint, en tasseau, avec un meuble intégré. Il y en a d'autres
Oui, alors, je ne sais pas, j'ai vu tourner une tendance avec une tête de lit en carrelage.
Ah bon ?
Et ça, c'est pour les gens qui dorment en gros pyjama, parce que s'adosser au réveil sur un mur en carrelage, moi, ça ne me donne pas envie de lire là, au lit.
Qu'est-ce que vous préférez, vous, comme type de tête de lit, Gaëlle Cuisy ?
Eh bien, moi, j'aime bien les têtes de lit en carrelage ou en faïence, mais après, on peut faire des incrustations pour justement enlever le côté froid quand on s'adosse pour pouvoir lire. On peut incruster justement des molletons, de la laine bouillie, du feutre en guise de coussin. Il y a aussi les lits qui ont la tête de lit intégrée. Tout à l'heure, en fait, la tête de lit, finalement, si c'est quelque chose de rajouté, ça n'a, qu'on met parce que ça s'achète tout seul et qu'on met derrière le lit, je ne sais pas si c'est un véritable intérêt. Mais en soi, c'est pour peut-être redessiner un sous-espace de la chambre. Il y a l'espace de la chambre et le sous-espace, c'est celui du lit et ça dessine cet espace. Là. Et il y a des lits qui intègrent la tête de lit. Des fois, c'est quand c'est chic, on a un beau lit avec une tête de lit en cuir, comme un paravent. On peut aussi avoir une tête de lit, comme on le disait, une tête de lit derrière laquelle on tourne. Alors, tout à l'heure, on parlait de la salle de bain ou du dressing, mais on peut aussi trouver, dans les grandes chambres, un bureau. On peut travailler ça. Et puis, effectivement, il y a une symétrie. On peut trouver les interrupteurs jolis.
Mais ce qui est pas mal dans un petit espace, c'est que la tête de lit permet de bien matérialiser l'espace nuit. Et ça coûte pas cher, avec de la peinture, du papier peint. On peut se faire un petit espace assez sympathique, Gaëlle Cuisy.
Exactement. Il y a multiples façons de dessiner ce petit espace, comme vous venez de le dire.
Quels sont vos conseils pour l'éclairage de la chambre ? C'est fondamental dans une chambre. Quels sont vos conseils ?
Si on a la chance d'avoir des sorties de fil en plafond et qu'on a un plafonnier, c'est très bien. Donc là, on peut, si possible, pas le mettre juste au-dessus du lit, mais voilà. Et puis après, diversifier les éclairages, c'est-à-dire avoir des petites liseuses, soit dans le mur, soit dans les têtes de lit, soit avoir des jolies suspensions qui descendent du plafond à hauteur de tête quand on est allongé. Enfin, voilà, il faut avoir des éclairages multiples pour bien voir aussi quand on se lève, et puis éclairer juste d'un côté du lit quand l'autre dort, si on veut lire, etc.
Christine Massel ?
Ben moi, je milite pour le traversin. Tête de lit sans traversin égale grand inconfort, torticolis et autres. Donc, je milite pour le traversin qui disparaît des magasins.
C'est vrai, c'est vrai.
Voilà, et puis quelques oreillers
ça
par-dessus.
Ça permet de faire des batailles de traversant, de polochon, ça me rappelle des souvenirs de colo. Jean-Laurent Casselli, vous en faisiez, vous, des batailles de polochon ?
Alors oui, mais c'est pas là-dessus que je voulais réagir, Ali. Non, mais je en plus, vous avez raison, il y a moins de traversins, et paradoxalement, on voit des oreillers, des coussins partout. J'ai l'impression que dans toutes les pièces, en fait, parfois on a l'impression, dans les émissions de déco, que les maisons sont devenues d'immenses chambres, en fait.
C'est vrai, Karine Martin.
Oui, des showrooms même, à coussins. Hein, voilà. Voilà. Mais pour revenir sur le traversin, moi je peux pas dormir sans. C'est très, très intéressant ce que je vais vous raconter. Et voire même dans la nuit, je le prends et je m'enroule autour avec la jambe comme ça. Donc c'est vraiment fondamental et il faut. Et la tête de lit n'empêche pas le traversin.
Réhabilitons le traversin. Tiens, je vous propose d'écouter un extrait d'une chambre à soi lue par Maëlys Ricordo sur France Culture en 2020.
Les chambres diffèrent si totalement les unes des autres. Elles sont calmes et pleines de bruit, donnent sur la mer ou au contraire sur la cour d'une prison. Elles sont encombrées de linge qui sèche, ou bien toutes vivantes d'opales et de soieries. Elles sont rudes comme des crins de chevaux, ou douces comme des plumes. Il suffit d'entrer dans n'importe quelle chambre, de n'importe quelle rue, pour que se jette à votre face toute cette force extrêmement complexe de la féminité. Car les femmes sont restées assises à l'intérieur de leur maison pendant des millions d'années, si bien qu'à présent, les murs mêmes sont imprégnés de leur force créatrice.
Un extrait d'une chambre à soi, un livre de Virginia Woolf qui est parfois traduit par une pièce bien à soi chez Rivage par exemple, ou une pièce à soi chez Gallimard dans la bibliothèque de la Pléiade. Christine Massel, je rappelle que vous êtes la commissaire de l'exposition au Musée des Arts Décoratifs. Dans notre monde incertain, anxiogène, le repli sur l'intime est essentiel, et c'est un repli sur la sphère intime qui a été exacerbé par l'épidémie de Covid-19 et par les divers confinements.
Oui, moi, ce que je voulais aussi poser aux visiteurs, comme je dirais dialectique ou alternative, c'était de dire d'un côté, est-ce qu'on n'est pas un peu trop obsédé par l'intime, justement, par cette chambre, par ce repli, et donc on perd le sens de la responsabilité collective et d'une implication, on va dire, plus sociale et politique, ce qui est quand même problématique aujourd'hui. Et d'autre part, l'intime, cet espace privé, peut être menacé par des intrusions, notamment à travers du hacking, etc. Donc vous pensez être tranquille dans votre lit, dans votre chambre, et en fait avec votre téléphone à côté, quelqu'un peut s'introduire, numériquement dans votre espace privé. Donc on vit un moment très particulier, paradoxal, à la fois de besoin intime exacerbé qui est lié quand même à un certain individualisme un peu trop développé dans nos sociétés, et en même temps ces risques qui sont plus forts que jamais.
Mais la chambre a été le symbole du retour à soi, un espace coupé du monde. Désormais, avec l'avènement des réseaux sociaux, la chambre devient une pièce à exposer au monde entier, notamment dans les jeunes générations. Et comme le dit très bien le journaliste Yves Jéglé dans Le Parisien, à propos de votre exposition, oui, l'intime ne consiste plus à se cacher pour se retrouver, mais à se montrer pour exister.
Oui, il y a tout ce phénomène des réseaux sociaux qui a redéfini la notion d'intime, puisqu'en fait, souvent, s'exposer, c'est avoir des followers. Mais qu'est-ce qu'on expose vraiment de son intimité? C'est la question que j'ai posée à 10 créateurs de contenu dans l'exposition. Et en fait, on voit très bien que l'intime qu'ils exposent est quelque chose d'extrêmement construit. Et je pense que c'est important aujourd'hui de comprendre qu'on ne peut pas s'exposer de la même manière que les influenceurs, parce qu'en fait, eux, ils construisent, ils réfléchissent à ce qu'ils vont livrer de leur intimité. Évidemment, ils ne livrent pas tout.
Ils ont parfois même des pièces, d'ailleurs, dédiées de plus en plus, soit chez eux, soit à l'extérieur, pour justement enregistrer ces vidéos pseudo-intimes. Quoi.
Oui, mais ça, c'est plus pour la sécurité, apparemment. Ils font plus ça chez eux, parce qu'ils se font cambrioler après.
Oui, c'est assez fascinant de voir comment, au travers de l'histoire, la chambre, qui au début était un espace collectif, et au fur et à mesure du temps, est devenue de plus en plus un espace individuel, pour aujourd'hui être une bulle complètement connectée sur le monde. Et il y a une dichotomie entre le fait d'être dans une pièce enveloppante entre quatre murs, et on offre de plus en plus sa sphère privée au monde public. Mais ça, on est maître de ce que l'on fait, normalement.
Claire Olanier, historienne de l'art.
Oui, c'est un paradoxe qu'on retrouvait chez les libertins aussi, qui ont voulu échapper d'une certaine manière dans leur quête de bonheur individuel dans les années qui précèdent la Révolution, échapper au contrôle social, et donc chercher des recoins, des cachettes, mais en même temps, avec ce paradoxe que tout cela était su en réalité, et que ça faisait les choux gras de la presse, et qu'en fait on se délectait des petits détails, et que c'était des maisons qui se visitaient, etc. Donc il y avait aussi ce jeu de montrer caché à l'époque.
Pour terminer, racontez-nous le parcours de cette exposition. On a une poignée de secondes. Christine Massel, au Musée des Arts Décoratifs.
Alors d'abord, un énorme trou de serrure que j'ai dessiné avec Italo Rota, le fantastique architecte de cette exposition. Et puis ensuite, on arrive dans une salle qui déconstruit la question de l'intime associé au féminin. Parce que comme on le voit dans l'expo, en fait, il y a très peu de représentations de l'homme dans son intimité.
C'est frappant dans le catalogue, hein.
Et c'est frappant, mais j'aurais voulu le contraire, mais en fait, quand vous faites une étude en histoire de l'art ou en histoire des images, vous trouvez très peu de représentations. En fait, ce sont souvent les artistes homosexuels qui ont osé montrer cette intimité. Donc vous avez Paul Cadmus, par exemple, dans l'après-guerre, ou ensuite David Hockney avec ses coupes d'hommes au lit. Mais représenter un homme dans son intimité, c'est comme si on montrait une certaine faiblesse, en fait, ou une certaine féminité qui est encore très peu autorisé. Et la seule qui le fait, c'est Nan Goldin, en fait, qui le fait de manière magnifique. Et puis, par exemple, Zanné Muoli avec ses couples de femmes. Mais c'est vrai que l'intime, aujourd'hui, est quand même encore associé au féminin. C'est ce que j'ai voulu déconstruire, ensuite, en passant à travers la chambre, les toilettes, qui sont aussi un lieu passionnant, sur lequel une émission entière serait nécessaire. La salle de bain, tout ce qui est lié à la beauté, qui est un sujet extrêmement passionnant, le parfum aussi, qui est lié à l'intime, le mobilier, bien sûr, tout ce qui est relatif à la sexualité, les sex toys, bien sûr, qui sont les grands objets de design qu'on trouve parfois dans des chambres, et puis tous nos changements récents
écrans, à travers la connexion, les réseaux sociaux, sans oublier les chambres ou les espaces pour les gens en précarité. Et enfin, le journal intime, invention du 18e et surtout du 19e siècle, qui raconte nos pensées les plus profondes.
Merci beaucoup Christine Massel. Courez voir l'intime de la chambre aux réseaux sociaux. C'est au Musée des Arts Décoratifs à Paris jusqu'au 30 mars. Merci beaucoup Gaëlle Cuisy et Karine Martin, le duo du cabinet G plus K. Et merci beaucoup Claire Aulagnier. Rappelez le titre de votre livre.
La chambre et l'intime.
Merci beaucoup. Alors demain, vous aurez le plaisir de retrouver Eva Rock et Daniel Morin, ça promet, en direct du Festival du Jeu de Société à Cannes. Sacrée ambiance en perspective. Demain à partir de 10h.
Grand bien vous fasse, un podcast France Inter.